la division des affaires culturelles de l'armée de rébellion non violente vous offre cet instant musical.
Je m'appelle Lucienne, bonjour Mermet. Voilà, j'ai bientôt 70 ans. On parle toujours des travailleurs pauvres, je suis d'accord, des SDF, etc. Mais des retraités, comme moi, 600 euros par mois, c'est dur, dur. Mais enfin, je suis vieille, alors peut-être que j'ai pas besoin de sortir, d'aller chez le coiffeur, de faire un peu de toilette, d'avoir des bonnes choses. Mais ça fait rien, j'ai France Inter et Mermet. C'est Mermet, tu m'énerves toujours, mais enfin, c'est ma distraction, j'aime bien France Inter. Alors je vous souhaite à tous une bonne année. Pense un peu aux retraités pauvres qui n'ont aucune aide. Et bonne année à tous et bonne année à moi, du coup. Salut.
Oui, bonjour. J'avais juste envie de lancer juste un petit témoignage. Simplement, j'habite dans le sud de la région toulousaine, dans les Pyrénées. Et hier soir, avec un ami, nous sommes montés à Toulouse et nous avons retrouvé les enfants de Don Quichotte sur les allées Verdier, les allées Paul Verdier à Toulouse. Et j'avais vraiment envie de dire qu'on a été accueillis. Mais vraiment incroyable, bon, par l'association des Don Quichotte et par toutes les assos du collectif, mais aussi par les gens de la rue. Ils nous ont gâtés, nous ont dorlotés, même, c'est incroyable, sans arrêt en train de nous proposer une boisson chaude et quelque chose à manger, parce qu'il y avait plein de choses sous la tente commune. Voilà, des choses qui ont été apportées par toutes sortes d'associations, associations qui passaient en maraude d'ailleurs. On a vu l'Ordre de Malte passer, déposer des couvertures, on a vu la Croix-Rouge venir demander si tout allait bien. Les Restos du Cœur qui nous ont apporté une soupe combien apprécié, une soupe de légumes, les Emmaüs, tout le monde. Et puis des particuliers, plein de particuliers qui passent avec des vêtements et plein de choses dans des plastiques aussi qui déposent, qui viennent exprimer leur sympathie. Par contre, des gens qui ont dormi sur place, qui ont passé la nuit dans les petites tentes, là, il n'y en a pas eu beaucoup. Ces petites tentes qui ont été toutes achetées, elles sont toutes neuves, elles viennent de Decathlon, elles doivent se faire un fric, entre parenthèses, en ce moment, parce qu'il paraît qu'ils font guerre de prix avantageux. Enfin voilà, et puis ce matin, on a eu droit à un café et des gens ont tourné toute la nuit pour garder les petites tentes. Ils nous ont accueillis, ils nous ont offert le café, ils nous ont demandé si on avait bien dormi. On a dit, oui, pourquoi pas. On a dit, oui, allez. On a simplement dit qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et ils nous ont dit, oui, c'est parce qu'on a chanté, joué un peu de musique, la guitare. Mais non, c'est les voitures. Mais eux, ils sont habitués, les gens de la rue, aux voitures. Nous, beaucoup moins, voilà. Et donc, pour terminer, simplement, ce que je voulais dire, c'est allez-y, parce qu'on était vraiment trop peu nombreux, il y a trop peu de logis qui dorment avec les sans-logis et dans les petites tentes, et ça c'est bien dommage. Voilà, c'était Régine dans les Pyrénées.
Bonjour, un routier sympa, quelque part entre Reims et Arras. J'écoute France Inter depuis longtemps, j'écoute beaucoup l'émission de Daniel Mermet. Une petite question quand même qui turlupine. L'association Les Enfants de Don Quichotte, c'est une association dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à 3 mois. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que cette association qui était complètement inconnue, en l'espace de 3 mois, elle a réussi à faire ce que l'abbé Pierre en 50 ans n'a pas réussi à faire. Ça paraît bizarre, je me demande à qui ça profite. Est-ce que ça profite vraiment au SDF tout ça? Allez, salut, bonne route.
Allô, bonjour. Eh bien voilà, moi je voulais rendre un petit hommage à quelqu'un que personne ne connaît certainement autour de vous, qui nous a quittés hier, et c'était quelqu'un d'exceptionnel, enfin pour nous. Nous étions nombreux à l'accompagner, on en parle beaucoup, dommage, c'est à des gens qu'on ne connaît pas forcément. Là, il s'appelait Momo, il était de Castries, et on l'aimait beaucoup. Et puis, que ceux qui entendent mon message, une petite pensée pour lui, pour l'accompagner. Merci à Daniel de pouvoir passer ce message. Et bonne année à tous quand même. C'était Colette.
Bonjour toute l'équipe, bonjour Daniel. Une fois de plus, l'émission d'hier était passionnante. Donc je ne peux que vous remercier et continuer comme vous faites, malgré les messages parfois un peu virulents contre certains types d'émissions que vous faites. Je trouve que justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez dans tous les univers, tous les horizons, et ça c'est passionnant. Et je tenais aussi à dire que moi le cueillir des mouches, ça me manque, je trouvais ça passionnant, et voilà. Donc je pense à l'auditeur qui nous faisait partager régulièrement ses observations de la vie des mouches, et voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous et puis continuez comme ça. Merci à vous.
Voilà, quelques minutes où on est passé de la mort de Momo, évoquée par Colette dans une gare, jusqu'à les Don Quichotte et les SDF à Toulouse. Et puis alors, mais finalement, on finit cette petite séquence de messages avec des histoires d'enculeurs de mouches. Vous ne pouvez pas changer, hein, y a rien à faire. Et jamais on n'arrivera vraiment à avoir des vrais auditeurs comme il faut, corrects, normaux, conformes, quoi, à ce que doivent être des vrais auditeurs. Je pense pas que ça va s'arranger avec l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de l'action directe. Allez hop, action directe, mais attention, bémol, important, bémol, non violente, action directe, non violente. On est avec, toujours dans le Vercors. Vous savez que hier, on a laissé tomber, lâchement Guy Van Til et Renaud Lambert, les grands reporters de la Basse Lucie. Vous savez qu'il n'y a que des grands reporters, hein, à la Basse Lucie. Il n'y a pas des petits reporters chez nous, il n'y a que des grands reporters. Eh bien, on les a laissés, dans le Vercors, quelque part, à 16h hier, quand on est arrivé au terme de l'émission d'hier, attachés, enchaînés, voilà. Alors, j'espère que ça va, on va les retrouver aujourd'hui à peu près en bon état, on va découvrir ça, et on va savoir ce qu'ils font là, hein, ils nous ont fait croire qu'ils allaient dans le Vercors, on va voir si c'est vrai, et ce qu'ils y font, et ce qui s'y passe, et avec qui sont-ils, après les messages, à nouveau quelques messages choisis dans la boîte vocale parmi ceux que vous avez laissés dans cette boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je reçois là ce matin au courrier SOS Enfants sans frontières, qui est un organisme que je pense qui est quand même très bien, ainsi que des trucs similaires. On parle beaucoup des dons au tsunami, pour le tsunami, etc. Mais je m'interrogeais pourquoi on ferait pas aussi des campagnes. Bon, je précise que je suis comme dans la bonne moyenne des Français, que je donne peut-être pour avoir bonne conscience, j'en sais rien, à différents organismes. Mais là, il y a un moment que je m'interroge parce qu'en fait, autour de moi, bah, beaucoup, on a des enfants en difficulté. Effectivement, pas de logement pour les étudiants, pas de logement pour ceci ou cela, les SDF, les gens sans travail, et tout ce qu'on veut. Et quand on est soi-même à peu près bien, on n'est quand même pas trop mécontent. Mais on a même conscience qu'on a peut-être de la chance ou qu'on l'a aidé, j'en sais rien. Mais là, vraiment, c'est vrai que ça commence vraiment à bien faire et que je ne voudrais pas. Moi aussi, je suis comme le monsieur qui a appelé ce matin, je paye des impôts et j'aimerais bien quand même que l'on ne me demande pas de me substituer à plein de choses. Je pense aussi aux dispensaires qui ont disparu et maintenant on demande aux médecins, aux pharmaciens et à plein de trucs de faire plein de choses, droite, gauche, peu importe. Je suis un peu comme le monsieur, on est citoyen et franchement, il y a quand même des trucs qui dépassent l'entendement. Alors, je suis désolée pour les enfants, là, c'est ceux du Vietnam, je mets ça à la poubelle parce que je peux pas donner à tout le monde, ça arrive tous les jours. Dès qu'on commence à donner quelque part, ça n'arrête pas. Et en plus, pour peu qu'on ait une profession où on fait partie d'un fichier qui est distribué partout, alors c'est multiplié par 10. Alors, on reçoit au nom de monsieur, au nom de madame, au nom de monsieur et de madame. Et c'est vrai, j'en ai marre. Voilà. Bonne journée, c'était Liliane dans le Val-de-Marne. Au revoir.
Allez, coucou tout le monde. Bon, 2007, c'est dingue, le temps passe comme une folle. Mais pourtant, info pour tous, le Café Repère de Paris 20e est toujours en vie, c'est dingue. Il se tiendra samedi prochain, le 6 janvier, au café, le lieu de nuit, 5 rue Sorbier, Paris 20e. Ça démarre à 16h, d'accord? Alors, à bientôt tout le monde. Et puis, bonne année, bonne santé, hein, c'est ce qu'on dit en ce moment. Allez, bisous tout le monde, ciao!
Salut Daniel, salut qui sont là-bas et salut qui sont ceux qui sont ici. Donc voilà, c'est François et j'appelais pour une chose qui n'a rien à voir avec tout le reste. C'était pour dire à Pascal Péguy que je l'aime. Et c'est tout, voilà, c'était François. Merci à tous, au revoir.
La résistance décide d'envoyer un opérateur filmer la vie d'un maquis.
J'ai emballé ma caméra et la pellicule dans des colis de légumes. Et me voilà parti. Pour le maquis du Vercors, paraît-il. Après le train, l'automobile. La sortie de Lyon. Les autres préparent leurs armes et moi ma caméra. Le maquis nous a aperçus sans nous identifier. L'embuscade est tendue à notre voiture. hommes du maquis occupent une position inexpugnable. Mais nos laissés-passer sont en règle, et bien qu'ils n'aiment pas beaucoup ma caméra, le poste nous laisse passer.
Salut, c'est Daniel Mermet, la passe J'y suis, avec Guy Van Til et Renaud Lambert. Action directe, non violente.
Flight number 2, arriving from...
Chaque semaine, ils voyaient monter vers eux les volontaires des compagnies civiles.
C'étaient des hommes qui, continuant de travailler dans la plaine, venaient ainsi chaque samedi se perfectionner dans l'instruction militaire pour être prêts lorsqu'on fait appel à eux.
Ok, allez, on va commencer.
Voici une démonstration à 1500 mètres d'altitude.
On va essayer de mettre en pratique tout ce dont on a parlé hier. Ce qu'on va faire ce matin, on va faire une seule activité, c'est préparer, jouer et évaluer une action que vous allez mettre en place. Donc ça veut dire qu'on va répartir le groupe ici en différents rôles. Évidemment, il va y avoir des activistes. Évidemment, il va y avoir de l'autre côté des forces de l'ordre. On va demander à nos amis journalistes de aussi tenir un rôle dans cette action. Et puis, pendant une heure, on va vous demander de préparer cette action. On a la chance de pouvoir être dehors ici et d'avoir un terrain qui peut se prêter très bien au scénario qu'on a imaginé pour vous. Ici, là, plus loin, est le chantier de construction du réacteur EPR. Et il y a là-bas... là derrière, un chemin d'accès pour le matériel et les grues, les camions, etc. du réacteur. Et un groupe d'activistes a décidé d'en bloquer l'entrée pour empêcher le déroulement des travaux pendant un certain temps.
L'histoire ne repasse pas les plats. L'histoire ne repasse pas les plats, ou alors... sous forme de farce entre ces reportages sur le Vercors des dates de la Deuxième Guerre mondiale et puis là où nous sommes aujourd'hui dans ce même Vercors avec les désobéissants, avec ces jeunes gens qui organisent des stages à la formation, à l'action directe, non violente. Il y a peut-être la différence qu'il y a entre les deux moments où, de l'histoire, la première pathétique et la deuxième sous la forme comique. Alors on peut sourire, comme on aurait pu sourire le 1er décembre 1955 quelque part dans l'Alabama, à Montgomery, où une femme jeune, noire, qui s'appelait Rosa Parks, a dit non. Elle a dit non. La ségrégation raciale sévissait aux États-Unis. C'était le principe même de la société américaine. C'était dans les lois, c'était les lois ségrégationnistes Jim Crow qui dominait dans ce pays. Elle a dit non, cette jeune femme noire, et a dit non à qui ? Ben, au chauffeur de bus qui lui disait qu'elle n'était pas à sa place, elle était assise devant dans le bus, et que ça, devant, c'est les places réservées aux blancs, et que des gens comme elle, eh bien, c'était dans le fond. Et elle a dit non, moi je reste assise là. Les flics sont venus l'arrêter, et elle a dit, mais pourquoi tant de persécutions ? Et le flic lui a dit, mais j'ignore, mais la loi, c'est la loi, et au nom de la loi, je vous arrête. En 1956, un an après, la Cour suprême cassait les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant inconstitutionnels, et en 1964, les lois ségrégationnistes étaient abrogées aux États-Unis. C'était ridicule, évidemment. Pourquoi est-ce que cette femme noire voulait absolument rester assise devant, alors que la loi, l'ordre, c'était d'être assise derrière, normalement, comme une femme de sa condition doit le faire. Des histoires comme ça, notre histoire, on est rempli. Toute petite action, elle n'était pas armée, Rosa Parks. Et néanmoins, voilà, on a retenu son nom jusqu'à ses mois derniers, puisqu'elle est décédée à l'âge de 92 ans, le 24 octobre 2005. peut placer cette heure sous son égide, la prendre un peu comme figure, avec ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc d'abord Guy Van Til et Renaud Lambert, c'est nos reporters, on y tient quand même un peu. Et puis surtout à tous ceux qui sont là dans ce maquis, autant que ça puisse en être un encore aujourd'hui. En tous les cas, ça en est un dans leur esprit. Ce sont des gens qui sont des militants ou des gens qui aspirent à le devenir dans des domaines différents, sur des causes différentes, même si elles ont une familiarité, parce que c'est quand même très souvent des gens de la mouvance Greenpeace, écolo plutôt, avec une dissidence, et qui sont là pour désobéir, parce qu'ils pensent que c'est leur devoir, c'est leur idée, c'est leur idéologie, même un mot obscène, hein, faut pas répéter ce mot-là, c'est un mot cochon, ça, c'est comme capitalisme, c'est des mots qu'il faut pas. Il y a ouvrier aussi. Pas prononcer ces mots-là. Et ils pensent quand même qu'il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et c'est pour ça que nous sommes avec eux jusqu'à 16h sur France Inter, Action Directe Non Violente.
Ils me sont tous tombés dessus quand je leur ai chanté les pâquerettes que j'avais acheté pour Arlette le matin même au bout de la rue. Si c'est pour nous qu'on t'effleurette, que tu viens t'enquicher chez nous, la chanson c'est un truc sérieux, soit tu t'engages, soit tu t'en fous. Alors rentre chez toi et répète 100 fois, j'emmerde les bourgeois et leur gouvernement. Et puis j'emmerde tous ceux qui sont pas militants, parce qu'ils ont pas les couilles le dimanche matin de venir se geler les burnes à la manif du coin.
Comment est-ce qu'on peut aussi faire ou tenter de faire une blocade en utilisant son corps, ses bras, ses jambes en groupe, bloquer un passage ou un endroit le plus longtemps possible?
Est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent essayer?
Voilà, maintenant après les travaux théoriques, on passe aux travaux pratiques. La nuit est tombée dans le plateau du Vercors. Tout le monde est près du feu parce que maintenant il fait très très froid. Donc, comme il fait très froid, un peu d'exercice, on apprend à faire un blocage. Une dizaine de militants se mettent assis au sol, les pieds au milieu. Atelier blocage, immobilisation.
Ça, c'est la première chose. Et après ça,
voilà, c'est une espèce de mêlée humaine. Ils sont tous entassés, enfilés.
C'est un peu trop, parce que tu vois, c'est ça.
Là, voilà, on s'en mêle les pieds les uns et les autres, et puis après, on s'attrape par les coudes. Ça fait une espèce de motte humaine compacte. De tas humains assez informes avec des têtes qui sortent d'un côté et de l'autre.
Donc, il faut les cacher. Si tu le caches entre votre jambe.
Et on cache les mains sous les pieds.
Peut-être que la jambe est un peu plus.
Moi, il me reste une main. Moi aussi.
Mais qui a une main là encore?
Les mains libres là. Des volontaires pour essayer.
Ah, maintenant, on cherche des volontaires pour aller les démêler.
Allez, monsieur. Allez. Stop.
Et voilà, une espèce de millefeuille humain et défait.
Il faut se raccrocher automatiquement dès qu'on
tire pour rattraper. L'idée de base, c'est d'avoir le moins de prises possible. Moins il y a de prises possible, plus ils auront face à eux une masse.
Quand ça marche, c'est une bonne blocade.
Alors, Marie-Christine, tu m'expliquais tout à l'heure que toi, tu as 59 ans, c'est ça?
Oui.
Donc tu fais partie des militants les plus aguerris du stage, là. Et toi, tu as commencé quand?
C'était les manifs à vélo à Paris. Ça doit faire 35 ans à peu près. La vélorution. C'était déjà d'essayer de lutter contre la quantité de bagnoles innombrables qu'il y avait dans Paris, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience aussi du rôle qu'on avait sur une terre qui était finalement relativement limitée, quoi, qui n'était pas extensible.
Et t'avais quel âge à l'époque?
J'avais 20 ans.
C'est à peu près l'âge de certaines des ouais. jeunes militants qui sont ici au stage.
C'est pour ça qu'ils continueront, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Enfin bon, je connais des gens de mon âge qui n'ont pas continué, ça c'est vrai. Et parce que ça fait un moment qu'ils se sont arrêtés même. Mais bon.
Si parmi les plus jeunes, il y a une conscience politique, une connaissance?
Pas trop, je pense. Il y a à l'évidence un rejet de la politique classique telle qu'elle est pratiquée. Bon, il n'y a peut-être pas une analyse politique très approfondie, ça va venir, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour ça, il hein, n'y a pas de problème.
Il y en a qui ont des postes quand même dont on peut penser qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société et aussi dans une forme de système.
Flic.
Il y a des gens qui travaillent dans la finance.
C'est dur là. Ouais. Quelqu'un hier m'a dit, je fais un boulot de merde mais ça me permet de militer à côté. Et je lui ai dit, je comprends pas trop ça. Je veux pas faire un boulot de merde.
Et parfois, on peut se demander si les gens disent le boulot permet de militer, mais on se demande si parfois le fait de militer permet d'accepter le boulot de merde.
Oui, je pense. Je pense, oui, ça donne bonne conscience quelque part en se disant bon, ben d'accord, je fais un boulot nul, mais je vais aller gueuler contre les centrales, etc. C'est un peu dommage, quoi. C'est pas cohérent, je trouve.
Tu fais quoi comme métier?
Je suis écrivain public.
Alors qu'est-ce que tu écris pour les gens?
De tout. Ça peut être comment récupérer mon RMI. Ça peut être des lettres d'amour. Mais le coup des gens qui ont perdu leur boulot, c'est complètement fou. Parce que des fois, mon travail à moi, c'est pas simplement d'écrire une lettre. C'est aussi de faire sortir tout ce qu'ils ont de bien, quoi, parce qu'il y en a des tas de choses bien, seulement, bon, entre la NPE, la CEDIC, les gens, les machins, les refus, les claquages de porte et trucs, ils en peuvent plus, ils ont plus envie, ils sont persuadés qu'ils sont nuls. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de chercher, de les faire parler.
Finalement, est-ce que c'est pas une forme d'action directe non violente, ça, d'agir comme ça sur le quotidien des gens, les aidant à retrouver un peu une estime d'eux?
Moi, je pense, ouais. Ouais.
On va manger.
On va manger. J'ai faim. J'ai froid surtout.
L'estime de soi, les affaires de dignité, des mots un petit peu oubliés, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. On est passé des années, on n'y peut rien. C'est comme ça, les années 80. Aux années, c'est déjà ça. Aux années du petit peu, aux années du colibri. Il y a un des stagiaires de ce stage qui nous a raconté ça, qui a raconté comment lui se prend pour un colibri, c'est-à-dire ce petit oiseau, tout petit oiseau minuscule, qui explique qu'il va, il a une goutte d'eau au bout de son bec et la forêt est en feu. Il dit qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau? Il dit je vais la jeter sur l'incendie. Et comme ça, j'aurais fait mon acte. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Alors il y a les colibris. Et puis, il y a ceux qui cherchent des moyens d'action plus radicales, des actions à long terme, des actions souterraines. Enfin, ça mobilise. C'est des vieilles histoires dont on parle là. Hein. C'est des histoires qui sont pas seulement liées au mouvement écologiste, au mouvement même, aux mouvements sociaux. C'est comment chacun peut agir là où il est sur l'histoire, tout simplement. On n'ose pas dire des mots pareils, mais c'est au fond ce qu'ils ont présent à l'esprit. Les gens, il y a des fois des actions, j'évoquais Rosa Parks, mais des actions, bon, voilà, la vélorution, c'était de dire, voilà, la pollution au début des années 70, c'était un peu ridicule, c'était folklore, c'était les marginaux, les allumés. N'empêche que les quartiers piétons, la renaissance du vélo, la prise de conscience très très lente, des dégâts causés par circulation excessive, etc. Ils avaient raison avant les autres. Mais alors cela dit, quand on se lance dans des actions, on ne sait jamais où ça va. Il n'y a pas un résultat direct, jamais immédiat, jamais bien direct. C'est des pressions qu'on donne, c'est des éléments qu'on donne, et parfois ils disparaissent, des fois ils sont récupérés. Mais les militants sont des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'être là, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est avec eux, avec Marie-Christine, et avec les autres, donc autour de ce stage d'action directe non violente organisé dans un coin du Vercors.
On est la gendarmerie locale, en fait.
D'accord, et sur ton brassard, il y a écrit
« Chef ». C'est un accident, effectivement.
Et donc, votre mission là, dans le jeu, c'est
de débloquer la route qui ouvre l'accès aux ouvriers pour la centrale, en fait.
Voilà, on va aller au camion.
Ouais, on va les cuire dans le panier à salade. Se mettre en condition.
En fait, pendant tout le stage, on a parlé de la police, un peu des CRS comme étant vraiment l'ennemi, quoi. Donc vous, là, c'est vous passez le cap, vous êtes l'ennemi.
Ouais, c'est vrai que il faut se mettre dans la peau de. Mais c'est intéressant dans le sens où comme ça, on voit un peu comment ils réagissent. On voit que c'est des êtres humains. T'as fait le plein, c'est bien.
C'est des êtres humains, en fait.
Oui, c'est des êtres humains comme nous. Et puis bon, après, effectivement, on peut quand même supposer qu'ils sont là pour suivre les ordres, qu'ils font pas forcément ce qui leur plaise. Faut aussi se mettre un peu dans la peau de l'eau. Je pense que c'est nécessaire.
Mais vous, en tant que militant, hier, il y a un groupe préparait une action, un projet d'action. Mmh. Ils évoquaient la possibilité de se déguiser en œuf pour attirer les médias, parce qu'on sait que les médias sont friands de ce genre de choses, de gens qui défilent nus sur les Champs-Élysées. Vous feriez ça?
Jusqu'à un certain point, ouais, c'est moi j'aime bien la technique des clowns, effectivement, d'aller dans la dérision et d'une image un peu forte. Ouais, moi je pense que je serais prête à le faire.
Mais c'est pas incompatible avec le côté sérieux des propos.
Pas. Ah non, au contraire. Au contraire.
S'attaque à l'abri.
Il y a les ampoules standards au prix le plus bas de la région. Il n'y en a qu'un. Mais j'emmerde les hyper et j'emmerde la pub. Toutes nos actions sont non violentes et revendiquées, bien sûr. Nous sommes des citoyens. Et essayons d'être aussi libres que possible. Bon, on entend parler des choses et on vient chacun pour soi et puis on se retrouve sur place, franchement. Ça se fait très facilement.
C'est toujours, tu joues à méchant, tout le monde est méchant et
on joue par le monde. T'as un procès
aux fesses ? Oui. Je passe le 12 janvier au tribunal, à la 29e chambre, tribunal correctionnel, pour avoir marqué un message hostile à la croissance sur un panneau qui vantait les mérites d'une marque de whisky.
C'était quoi comme marque ?
Four Roses. J'ai marqué marre de la pub, ce qui n'est pas forcément très intelligent. J'étais assez énervé parce que mon père est alcoolique et je trouve ça pas très cool de promouvoir la publicité.
Et alors, ils t'ont accusé de quoi, là ?
Dégradation.
Parce que t'as écrit sur une affiche.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que c'est pas les publicitaires, c'est pas les afficheurs qui ont porté plainte, quoi. C'est l'État qui porte plainte.
Comme le rendez-vous est public, il y a quelques journalistes, il y a aussi la police qui est présente. On explique ce qu'on va faire de façon à ce que ça se passe dans le calme. Les policiers, lors de les arrestations, souvent ils disent « c'est bien ce que vous faites, on est avec vous ». En général, ils attendent qu'on ait agi avant de nous interpeller. On m'a saisi la bombe des mains, je crois que j'étais sur la dernière lettre. On fait ça à visage découvert, dans les pas de Gandhi, je dirais, de façon non violente mais déterminée.
C'était déjà arrivé d'aller au poste ?
Oui, mais c'est la première fois qu'il y a des suites judiciaires. Ouais. Mais tant mieux, hein, on demande qu'à expliquer notre geste. J'ai pas l'impression que tous ces panneaux qui sont souvent éclairés, motorisés, soient une bonne chose pour la société. C'est certainement pas un progrès, c'est à mon avis un recul. Je sais pas, je crois que c'est 600 panneaux par jour qu'on visualise quand on prend le métro. Et même quand on en est conscient, on subit cet affichage en permanence.
Qui croit encore à la publicité ? L'idéologie publicitaire est violente et destructrice. Elle manipule, elle désinforme, elle abîme. Abat la pub. R.A.P. Résistance à l'agression publicitaire.
Toi, ce qui t'a amené ici pour cette formation pour l'action directe non violente, c'est la lutte contre l'agression publicitaire.
Entre autres, mais je trouve que c'est une démarche qui est intéressante.
Redis-moi ton prénom.
Jean-Michel. Je suis informaticien. Je fais des logiciels pour des dentistes.
Ça marche bien ?
Ça va. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait des jeux vidéo divers et variés. J'ai fait des grosses conneries aussi quand j'étais plus jeune, genre quand j'ai été étudiant, on m'a proposé 24 000 euros pour travailler une semaine sur des systèmes de simulation de gyroscope pour des missiles. Et voilà, j'ai fait ça, j'avoue.
Et ça, t'appelles ça une grosse connerie ? Parce que moi, je pensais que t'allais me dire un truc de drogue ou un truc de jeune qui fait des bêtises.
Bah ouais, c'est un truc de jeune qui fait des bêtises pour de l'argent.
Mais c'est pas la porte ouverte.
Quand t'es étudiant, 24 000 euros, c'est pas rien, quoi. Surtout que les études, c'est pas donné. Et bon, bah ouais.
C'était quoi comme bêtise alors ?
Un système de guidage de missiles. C'était de la simulation, les gens étaient contents. J'ai empoché mon gros chèque, bêtement.
C'était pour qui ?
Aérospatial.
Et ça, tu portes ça comme un regret, comme un poids sur ta conscience, j'ai l'impression.
Ouais, je suis content d'être arrivé ici et de pouvoir compenser cette connerie-là, j'espère.
Tu te rachètes ?
Un petit peu peut-être, oui. Je vais te faire des bêtises, hein, mais au moins on a la possibilité d'évoluer et de devenir moins con.
Et qui est-ce qui s'est déjà pris des lacrymones?
Je pense un peu tout le monde, au moins en étant lycéen. On pose la question inverse, qui n'en a pas
fait? Flashball, quelqu'un inconnu déjà?
Non.
Matraque?
Oui.
Charge, après il reste.
Ah moi j'ai connu les voltigeurs. C'est ouais, sympa ça.
Ouais, ça aussi j'ai connu à Paris à l'époque, des manifs de Bré et tout ça. C'est les mecs qui arrivent en petite mobilette là et...
Ils sont sur les trottoirs, ils vont partout.
Eux ils te mettent à terre.
Lui et l'autre derrière avec la matraque.
Eux ils te mettent à terre, ils continuent et t'as les autres derrière qui arrivent et qui latent.
Concernant les lacrymons, surtout les trucs envoyés, il y a un truc très bête que j'ai rarement vu utiliser mais qui est très bête, qui est un simple bout de métal ou de bois dans lequel vous enfilez une chaussette par exemple, et quand il tombe, vous l'appuyez et vous le renvoyez comme un système de chaîne de chistera. Ouais. Ça vous il y a un système tout bête et ça, vous le renvoyez à, retour à l'envoyeur. Ça, c'est très efficace, c'est pas beaucoup employé.
Pour ceux qui vont aller au G8, ils mettent du gaz lacrymo dans l'eau des citernes à eau et du coup, c'est jet d'eau plus lacrymo, donc ça s'imprègne dans les vêtements. Dans les vêtements,
C'est quoi la manif la plus chaude que tu as faite?
Ma première, les mineurs de Longwy.
Longwy.
Ah ouais, ça fait quelques années ça.
Ça fait 80, ouais.
Longwy, vous le savez sans doute, a connu la nuit dernière une nouvelle flambée de violence. Manifestants protestant contre le brouillage de la radio libre de la CGT Lorraine Cœur d'Acier contre CRS et Garde Mobile.
Bah ouais.
Tu faisais quoi à ce moment-là?
Je faisais quoi? Bah je suivais un groupe et ça a été ma formation finalement au militantisme et à l'activisme, quoi. Voilà, t'y vas parce que t'es complètement inconscient, parce que t'as une certaine inconscience du danger, puis tu te prends du lacrymo et puis tu vois les CRS chargés, tu flippes. Voilà. Mais bon, c'est bien de commencer comme ça, parce qu'après, quand tu passes à la non-violence, c'est sympa aussi, quoi.
C'est quoi ton prénom déjà?
Jean-Charles.
À quel âge à peu près?
42.
Donc toi, t'as commencé à avoir pas mal de bouteilles d'action de rue, c'est ça, si je comprends bien? T'as fait un peu le tour, justement, des autres manières de contestation?
Je suis passé de la violence à la non-violence.
Quelle violence tu faisais?
Violence, c'était balancer du cocktail, c'était balancer du pavé, c'était démonter des grilles, c'était.
Un cocktail Molotov.
Oui, bah c'était. T'étais entraîné dans un mouvement, c'est vrai qu'à 16 ans, t'es pas conscient de ce que tu fais, quoi. Je le regrette pas, mais effectivement, j'aurais peut-être préféré commencer par des mouvements comme ça, de non-violence, qui m'auraient. Parce qu'à l'époque, enfin bon, on était beaucoup plus livré à nous-mêmes. C'est vrai qu'on était beaucoup moins cadré dans les manifs. C'est vrai, des mouvements gauchisants assez violents, quoi. Donc tu suivais ça parce que t'étais là-dedans, quoi.
C'était quoi? C'était les revendications ou c'était l'excitation de l'action?
Je crois que c'était plus au début l'excitation de l'action. Ouais. C'était de former au militantisme. C'était parce que t'avais envie de faire ça et que voilà, peut-être que tu t'emmerdes aussi.
C'était quoi justement le monde dont tu venais, ton milieu d'origine?
À mon milieu, c'est bourgeois, père fasciste. Nostalgique de la guerre d'Algérie.
C'est lourd.
L'occupation, c'était pas si mal parce qu'au moins il y avait de l'ordre. Voilà le milieu d'où je viens. Donc c'est vrai que j'ai pris carrément le contraire parce que résistance à l'autorité, donc résistance à l'autorité totale. Et effectivement, le flic, c'était l'autorité. Et voilà, en fait, moi j'ai fait le meurtre du père par le militantisme.
Dans la rue.
Ouais, dans la rue, j'ai fait le meurtre du père comme ça. Quoi. Voilà, j'espérais effectivement qu'il me voit pour l'emmerder. Quoi. Voilà, je crois que c'était ma psy, c'était ça. Quoi.
Enfin, le maire de Longwy, M. Jules Jean, a décidé de fermer sa mairie pendant 24 heures pour protester contre, je le cite, l'attitude inadmissible du gouvernement, du patronat et des forces policières. Les travailleurs, a conclu M. Jean, sont en état de légitime défense. Ils se battent pour leur vie et pour la survie du bassin.
Longwy, une référence, Lorraine Cœur d'Acier, le Vercors, le Maquis, il y a toute une... Évidemment, dans l'imaginaire de ces militants, il y a toutes ces références, tous ces grands embrasements de l'histoire sociale de notre pays, mais aussi des figures bien connues. Hier, on disait de jeunes bourgeois venus s'encanailler à la Sorbonne. Ou bien, aujourd'hui, on peut dire aussi, ben là, ce qu'on entend là, c'est des bobos qui se la pètent, et puis voilà tout, quoi. Et oui, et c'est ainsi, peut-être, sommes-nous là avec des, l'avant-garde du renouvellement et du renforcement et du rajeunissement du capitalisme. C'est pas exclu du tout. Et peut-être qu'on a la figure, encore une fois, évoquée en début de cette heure de Rosa Parks, des gens qui sont capables de changer les choses, d'être en phase avec, avec le temps, avec l'histoire. C'est très difficile de savoir et de choisir. Enfin, en tous les cas, on laisse évidemment la liberté à chacun de se faire son idée. Concernant les ancêtres, c'est-à-dire, quand même, il y a l'ombre de 68 qui est derrière ça, qui est là. Un des participants à ce stage nous disait sur les 68 arts, à force de répéter ni Dieu ni maître, on en a fait des dieux et nous, on s'est fait maître.
Voilà, ça y est, tout le monde est installé, l'action a lieu. Les manifestants ont pris une banderole où ils ont écrit non à l'EPR pour nos enfants avec le signe du nucléaire. Et puis il y en a d'autres qui ont mis des tapis de sol et qui ont fait exactement l'exercice de la veille, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en boule les uns tenant les pieds des autres, cachés les bras par-dessus, par-dessous, et ils bloquent la route. Et il y a deux ouvriers là qui essayent de s'énerver, et les autres pendant ce temps-là sont en train de faire les journalistes. Et pendant ce temps-là, on voit les CRS qui arrivent. Ils sont sortis de leur camion et ils sont en train de marcher en ligne. Et pendant ce temps-là, les deux formateurs de ce stage à l'action directe non violente sont en train d'observer en prenant des notes et le sourire intéressé. C'est comme pour de vrai, sauf que c'est pas pour de vrai.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Voilà les CRS.
Ah bah vous tombez bien, ah oui, en fait. Hein. Voilà, ils nous empêchent d'aller bosser. Il y a les collègues qui arrivent, la deuxième équipe, là, faut que ça débarrasse. Donc allez-y.
C'est vous le porte-parole?
Oui.
Les responsables?
Arrêtez vos conneries, la bande de Gugus, mais.
On fait pas de mal.
Sale gauchiste.
On fait pas de mal.
Bon, y a pas de responsable.
Arriva.
Très bien.
On est tous concernés par le nucléaire.
Qu'est-ce qui se passe?
Attention, là, faut.
C'est la sirène de la police. Ah, les forces de l'ordre arrivent dans leur camionnette. À mon avis, ça va barder pour vous, là, avec votre panneau non à l'EPR.
Il y en a marre des bourgeois qui ne bossent pas pendant que nous, ils nous empêchent de bosser. Allez,
vos enfants. Dans le
coin, vous mes enfants,
ici,
j'y pense très bien, il faut que je les nourrisse justement.
Ici, qu'est-ce que ça va devenir?
Personne ne fait de la pollution, tout ça en dépôt d'échappement, mais ça sort quand même, on n'y peut rien. C'est utile, vous n'allez pas revenir à la bougie.
Pas gérer aujourd'hui.
Ah, voilà les CRS qui arrivent.
S'il vous plaît, vous pouvez rester à l'écart.
Ah voilà, les CRS sont soulevés.
Non, non, allez, pardon.
Laissez passer, laissez passer.
Laissez passer.
On veut pas
de l'EPR. Il m'a empêché depuis.
Non, l'EPR. Non, l'EPR. Non, l'EPR. Non, l'EPR. Non, l'EPR.
Mais jusqu'à où ça peut aller? Tu dis action directe. Oulala, oulala. Non violente. Ah bon?
Bah écoute, jusqu'où ça peut aller, c'est à chacun de le décider. Là, clairement, on est dans l'idée de ne pas s'en prendre aux personnes physiques. Mais si on peut faire perdre de l'argent à une multinationale ou à un gouvernement qui viole le droit ou qui viole la morale contre les intérêts du bien public, de la communauté, etc., eh bien, on le fera, évidemment. Et puis, peu importe les conséquences, heureusement que dans l'histoire, un certain nombre de gens ont osé faire grève et faire des grèves y compris illégal, pour imposer des revendications qui étaient légitimes, que des femmes ont refusé de faire telle ou telle tâche et ont exigé le droit de vote à certains moments au risque de la matraque, que des Gandhi, des Martin Luther King ou des Rosa Parks ont refusé les systèmes d'apartheid, de discrimination ou de colonisation contre lesquels ils s'élevaient, au risque de leur liberté, au risque de se prendre des coups, mais voilà, c'est... Le but est de... On peut pas... Enfin, ce monde est insupportable et en même temps tellement beau. Donc, si on peut le sauver en éliminant tout ce qui nous est insupportable, on le fera. Et finalement, on est un certain nombre là à ne pas pouvoir faire autrement. C'est quelque chose qui fait que... je veux dire, militer, c'est... Ou essayer de faire quelque chose, c'est presque naturel. On n'a pas...
En tout cas, on voit pour beaucoup de ceux qui sont là, c'est une épine dorsale. C'est un truc qui les tient.
Complètement, complètement. Et on n'est pas dans les... On n'a pas véritablement des gens, on pourrait penser des gens peut-être en marginalité sociale ou affective, etc. Mais non, là, on a plein de gens qui sont parfaitement intégrés, qui ont des boulots correctement payés, des familles, des enfants éventuellement, et qui néanmoins considèrent que c'est un peu le loyer à payer à cette planète. Il faut se battre. On ne peut que se battre. On ne peut pas faire autre chose. Alors si ça peut être ludique, si on peut y prendre du plaisir, on le fera. On n'est pas là pour s'emmerder. On n'est pas non plus des moins de soldats, mais il faut que ça soit efficace. Nous, on est des citoyens ordinaires, plutôt intégrés, bien intégrés socialement, et qui prennent des risques sans faire prendre de risques aux autres. C'est-à-dire que finalement, dans ces actions, si le danger il y a, on va essayer qu'il n'y en ait pas, mais il arrivera qu'il y en ait, il n'y a que nous qui allons les assumer, ces dangers. Le danger sera pour nous. Le danger de se prendre de la violence, le danger d'être d'une répression forte, de perdre notre liberté, d'avoir des grosses amendes. Donc, si on communique correctement, si on fait bien passer ce message que nous ne voulons mettre en danger personne, nous ne nous en prenons pas aux forces de l'ordre, nous ne sommes pas dans un rapport de violence, mais nous dénonçons en revanche une violence qui est faite, une violence contre la planète, contre la paix, contre les pauvres, eh bien, je pense qu'on peut désarmer ou désarçonner l'argumentaire de l'adversaire.
Violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime.
Quelqu'un par hasard sur l'autoroute en train de changer de radio tombe là-dessus, entend un morceau de l'émission et va dire mais qu'est-ce que c'est bronc quoi. Allez, va jouer là-bas. Allez. Hop.
Greg, c'est ça ?
Ouais, ouais, ouais.
Toi, t'étais un de ceux qui, j'ai l'impression, a le plus d'expérience dans toutes ces affaires d'actions non violentes aujourd'hui, là.
J'ai passé 2 ans à Greenpeace, donc c'est une bonne école, ouais. T'apprends pas mal. Ouais.
Pourquoi t'es venu ici, là, cette fois-ci, pour ce stage de formation ?
Parce que moi, je suis allé à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, c'est devenu un peu une évidence, quoi. J'étais journaliste avant, donc je passais pas mal de temps à écrire et à bosser sur ces sujets-là, un petit peu développement durable, etc. À l'époque, je bossais pour les Échos, donc j'en bouffais pas mal, tu vois, des rapports financiers et tout ça. Et à un moment donné, tu vois, tu récupères des infos, tu les traites chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et on est parti en Galice pour le Prestige. On a monté un collectif qui s'appelait Stop Tanker, ça veut dire stop aux outrages, aux agressions pétrolières. Donc on est parti 3 fois là-bas, nettoyer. Et là, il y a un moment donné où en tant que personne, tu pètes un plomb, quoi. T'arrives sur une plage, moi je viens de l'île de l'Héron en plus, donc tu vois la plage ça me parle quoi. Et t'arrives, tu vois ça, c'est dégueulasse, t'as du truc partout, et là tu dis bah non, c'est pas possible quoi. Enfin, c'est pas écrire, dire que c'est dégueulasse, dire que c'est machin, ouais c'est bien, il faut le faire, c'est net, c'est indispensable. Mais il y a un moment où en tant que personne, tu vois, t'as envie de hop faire ce pas en plus quoi, celui qui te pousse dans l'engagement.
Se mouiller quoi.
Ouais, et puis même plus que se mouiller, c'est vraiment s'engager quoi. C'est-à-dire que moi je me suis dit pendant tout le temps où je vais rester là-dedans, c'est un choix que je vais faire, je vais y aller à bloc. Quoi.
Voilà, comment on peut être journaliste dans un journal économique et puis un jour, il y a la prise de conscience, hein, il y a le chemin de Damas, il y a un jour où Paul tombe de son cheval et puis découvre que c'est plus possible et puis refuse. Voilà, il y a tout un tas de procédés, de processus, de cheminement qui entraînent les hommes et les femmes à prendre conscience que ça peut plus durer. Certains, c'est dans leur vie, même dans leur enfance, dans leur origine. Mais la vie personnelle est très importante dans ces affaires-là. Je veux dire, l'expérience personnelle est très importante. Mais on voit bien que quelque chose bouge dans notre... Comment on dit ? Parce que c'est le mot qui est très employé, là, bouger. Hein, le bougisme, il faut que ça bouge, il faut faire bouger les choses, etc. Qui aurait peut-être tendance à donner un sens à une phrase... Deux phrases d'un certain Marx, Karl, vous voyez, Marx, Karl, qui disait « L'économie politique, malgré son air laïque et matériel, est en réalité une science morale, la plus morale des sciences. Son dogme principal, c'est le renoncement, l'abandon de la vie et de tous les besoins humains. Voilà, et peut-être que là, ces militants ont compris qu'ils ont renoncé à renoncer et ils abandonnent l'abandon.
À partir du moment où tu décides d'intervenir dans l'espace public, parce qu'au final, c'est comme ça, quand tu fais une action, c'est que tu prends la liberté en tant que personne de venir t'imposer sur un terrain qui n'est pas le tien pour faire entendre tes idées.
Alors que personne ne t'a rien demandé.
Alors qu'on n'est pas, personne ne t'a demandé. Si tu n'es pas capable d'avoir un discours qui tient la route de A à Z, tu ne peux pas te permettre de l'ouvrir. Quoi. Si, moi, pour moi, c'est une nécessité, ouais. Tu vois, d'être capable de bien comprendre où intervient l'action que tu fais à un moment donné dans un cadre plus global. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a vu que le système s'est emballé, qu'il y avait toujours des guerres, qu'il y a toujours des bordels, toujours des dysfonctionnements entre les plus riches et les plus pauvres, enfin, tu vois, t'as un système où c'est tout le monde vit parce que un jour, un mec s'est levé en disant « il faut qu'il y ait 3% de croissance par an ». Bon, bah d'accord, ok, il faut qu'il y ait 3% de croissance par an. Mais pourquoi, comment, quoi qu'est-ce ? D'où ça sort, ce 3% de croissance par an, quoi ? Est-ce que toi, t'as besoin de prendre 3% de ta taille par an, quoi ? Non, t'es bien comme ça, quoi. Et donc là, pour moi, dans ma conviction, on est au milieu du truc, tu vois. T'as deux voies, c'est où on continue comme ça, il faut qu'on fasse plus temps, et le reste, on s'en branle, où on se dit, attendez les gars, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut réfléchir sur qu'est-ce que la création de valeur, quoi ? Est-ce que c'est uniquement sur la valeur pécuniaire, sur l'argent que tu reçois, ou est-ce que il y a autre chose à créer derrière, que ce soit en lien social, en transfert de compétences, de mieux vivre ensemble, de pouvoir bosser avec ses voisins, etc. Moi, je suis plus dans cette voie, quoi.
Assassini ! Intendo dire che il meccanismo messo in piedi a Genova.
Je veux dire par là que le mécanisme mis en place à Gênes
aveva l'obiettivo di mortificare fisicamente e psicologicamente la gente.
Avait l'objectif de mortifier physiquement et psychologiquement les gens.
Paola, cosa sta succedendo?
Si stanno saltando. Come sono stanno? Arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto. Dalla discesa ci stanno. Guarda, è una situazione
Paola, chi è che,
insostenibile.
Chi è che vi sta assaltando?
La polizia.
La polizia.
Sì. Toi, t'étais à Gênes?
Ouais. J'étais, tu vois, Carlo est mort à la bagnole. Moi, j'étais là, à 20 mètres, quoi.
T'évoquais Carlo Giuliani, qui s'est fait tuer. Est-ce que là, justement, il n'y a pas une limite de l'action non violente ?
Quand ça s'est passé, si tu veux, à Gênes, c'était... Personne n'a réalisé de suite, quoi. Tous les mecs qui sont arrivés près des jeeps, il y a un morceau de bois qui a volé, qui a pété la vitre arrière. Et là, il y a Carlo qui était à côté, qui a pris l'extincteur. Moi, je te dirais que c'est au moment où il était dans l'extincteur comme ça, t'entends un coup de feu. J'avais jamais entendu un coup de feu. J'ai jamais vu une arme, moi. Et là, tout d'un coup, PAN ! Et là, t'as un corps qui tombe, et là, t'as la bagnole qui roule, cette fameuse image où il y a les roues qui lui passent dessus, et tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas ce qui se passe, tu veux. Le moment de la course, machin, et en plus, c'est en fin d'après-midi, donc il y a déjà toute la journée où ça cartonne, le ciel, il est bleu, mais t'as un espèce de plafond de lacrymo partout, t'as les bagnoles qui brûlent, t'as vu des mecs passer toute la journée avec la gueule en sang, tu sais que chez les flics, c'est le bordel, ça court, t'as les rumeurs, enfin, c'est... Donc, si tu veux, ça allait très vite, quoi. Et là, t'as Carlo, par terre, en sang, quoi. Et donc, sur le coup, t'as pas le temps d'analyser, tu comprends pas, tu fais si. Mais après, avec le temps, donc alors ensuite ça repasse, tu vois, tu reviens en France, raconter ça à des. Moi en plus, je viens d'une culture, enfin, où ma famille, où mes potes que j'ai machin, j'ai personne qui est dans ce monde-là en fait.
Ah.
Dans le monde de l'activisme ou.
Ils sont comment ?
Non, bah mon père, ça m'est cool, hein, il est tout bib, machin, etc. Mais il est pas dans ce trip-là, ma mère non plus. Tu vois, par exemple, en 68, ils ont rien fait, eux. Ils n'ont pas bougé, ils étaient sur Bordeaux à la cool. Ils n'ont jamais été dans ces luttes-là. Et donc, moi, si tu veux, tous ces trucs-là, moi, je les ai découverts tout seul, en fait. Par exemple, à Gênes, moi, j'y suis allé, j'étais tout seul. Puis maintenant, du coup, ouais, Carlo, je vais pas dire, j'y pense tout le temps, tu vois, j'ai pas fait de mausolée, machin, mais quand t'as été témoin d'un truc comme ça, et de toute manière, tu sais que si tu veux arriver à une victoire à un moment donné, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Il faut vraiment aller au carton, il faut vraiment bosser, il faut. Ça vient pas tout seul, quoi. C'est pas vrai. C'est-à-dire que tu sais que juste la mobilisation pour la mobilisation, ça suffit pas.
Ouais, on va vous aider. Écartez-vous un peu, les gens.
Écartez-vous
un peu, s'il vous plaît. Non, non, excusez-moi, le droit à l'information prime sur le droit à l'image. Excusez-moi.
S'il vous plaît.
Ouais, c'est un grand jeu, en fait. Chacun est en train de jouer son rôle. Le policier fait le policier avec beaucoup de sérieux en prenant la voix grave. On voit ceux qui ont l'expérience, qui ont déjà vu se faire ça.
Je vous demande de vous mettre des gens en danger.
On mettait des gens en danger en faisant ça.
On l'a.
Mais pendant ce temps-là, il y a les militants qui ont déjà été arrêtés, qui frappent contre les vitres du fourgon cellulaire.
Il n'y a rien à voir ici.
Qui est un minivan et ils sont là.
Non, s'il vous plaît.
Restez ici, restez à bonne distance, s'il vous plaît.
C'est bon, j'ai mes deux minutes pour jeter.
Qu'est-ce qui cogne?
Dans le Vercors, pas de PR, dans le Vercors.
Ça, c'est qui, ça? Ah, maintenant, c'est les ouvriers du coin qui sont énervés parce que les militants les empêchent de travailler et voilà qui essayent de passer en force. Maintenant, les policiers sont obligés de se déployer pour pouvoir empêcher les salariés de l'usine occupée de venir faire la place nette eux-mêmes.
Allez, c'est bon.
Il y a les derniers qui font de la résistance, mais à mon avis, les forces de l'ordre vont pouvoir bientôt rétablir l'ordre. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de se rouler dans la boue. Ils sont tous salis, les pauvres. Mais il faut bien faire ça, c'est pour la cause.
Tu dégages. Allez, hop, voilà, celui-là. Allez.
Non, le pain.
On a pas sa dimanche pour jeter.
Allez-y, les gars, c'est bon. Allez.
Notre responsabilité maintenant, c'est maintenant mon combat, il est là-dedans, c'est de bosser dans des boîtes. Moi, je bosse pour une SARL, donc une vraie boîte avec un compte de résultats, il y a tout le bordel, mais où le boulot que tu fais et où les produits que tu vends et la manière dont tu gères ton boulot, c'est différent, c'est une alternative. Et tu réfléchis de manière vraiment organique, dès le départ, pour faire en sorte que tu aies une empreinte écologique la plus faible possible. Donc c'est en poule basse conso, tu prends pas ta bagnole pour faire n'importe quoi, tu gères tes déchets. Moi, c'est mon métier maintenant de faire ça, de faire de la com et de l'information, tu vois, pour les PME, PMI, pour installer des politiques de tri dans les boîtes. Et les gens, ils sont super demandeurs. Hein. Et pourquoi ils sont super demandeurs? Parce que tu les attires sur deux trucs, sur les économies en termes de business qu'ils pourront faire, et comment en interne, c'est des projets qui peuvent mobiliser les équipes, et comment en externe, ça peut verdir leur image, et pourquoi c'est positif pour eux. Tu vois, à chaque fois, c'est pareil. Tu vois, les personnes, tu peux les amener avec toi, mais il faut que tu aies une carotte, quoi. Sinon, ils viennent pas. Enfin, je suis désolé de le dire, hein, et c'est peut-être crade, ça passe peut-être mal, ou machin.
C'est moins idéaliste, disons. Quoi.
Mais c'est la réalité. Mais en même temps, moi, ça m'empêche pas, moi, dans mon crâne, au fond, je suis tout seul, d'être le dernier des utopistes et premier des idéalistes. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais comme choix? C'est où tu te parles pour toi, et à un moment ça marche pas, ou au fond de toi tu as envie de faire ça, et tu démerdes, et tu joues avec les gens, clairement, tu les mets en scène ou tu te démerdes, et finalement ils font des trucs qui te font beaucoup rigoler, quoi. Tu vois, on était à Polytech, le salon de l'écologie industrielle, et à la fin du salon, il y a un mec qui vient me voir avec une chemise bleue, costard, ouais, donc on commence à discuter, et il voulait être fourni en fourniture de bureau, vaisselle biodégradable, tout le bordel et tout. Et il me tend sa carte, le mec il bosse pour Areva, quoi.
Areva le nucléaire.
Donc moi, si tu veux, ça, c'est des moments, moi, qui, perso, me font super rire, quoi. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est-à-dire que t'es face à un mec, tu discutes avec lui.
Qui vend des centrales nucléaires.
Et surtout, ce mec-là, moi, Areva, moi, je me suis battu contre lui pendant 2 ans, quoi. Tu sais, quand on a fait l'action contre la plateforme en face de l'EPR à Flamanville, c'était ça, quoi. Et donc, c'est rigolo de se retrouver face à un mec, parce que lui, il sait pas, je viens de ce monde-là. Et là, t'es face à lui, bonjour, monsieur. Et t'as le petit sourire qui se lève, quoi. Elle te fait, je te nique. C'est ça qui est bien, tu vois.
Ah, il y en a qui font les au revoir.
Ouais.
On fait
un grand
au revoir à tout le monde, les gars, c'était super.
Ciao.
De toute façon, on est amené à se revoir. Donc...
Merci. Bon retour.
Merci pour tout.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Salut. Bon, ben voilà.
Bon retour. Vous allez en Paris en bagnole.
Ouais.
Demain matin.
Salut, bon retour.
Salut, histoire de.
Ciao. Salut, merci pour tout. Courage, merci à toi.
Et une prochaine, ouais.
Ciao.
On s'est donné des rendez-vous en prison, tous.
C'est le clown. Bye bye. À bientôt. Ciao, bye bye, bon retour.
Voilà, à bientôt, merci à tous. C'était un reportage de Guy Vanctil et de Renaud Lambert. Merci à Xavier, Marielle, Juan, Marie-Christine, Christophe, Olivier, Paul, Romain, Stéphane, Pierre-Marie, François, Cyril, Marie, Nicole, Léna, Nicolas, Laurence, Virginie, Fanny, Bernadette, Ben, Jean-Charles, Yannick, Grégory, Hans, Fabien, ainsi qu'à Boris et Olivier. La privatisation de la violence, c'est le bouquin de Xavier Renoux. C'est aux éditions Agon. À signaler aussi aux éditions Autrement, Militer aujourd'hui.
à consulter le site des désobéissants, c'est www.désobéir.net, et le site de la campagne contre le missile M51, c'est www.non-au-missile-M51.org. Toutes les informations concernant les repères, les amis de là-bas, si j'y suis par ailleurs, sont disponibles sur le site de France Inter, www.franceinter.com, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, ou bien également sur le site www.la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bertin et Alain Gadan, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal, le Pascariello, et Christophe Imbert attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.